Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour, nous n'avons pas vu le doudou, mais on n'ira pas le voir. Nous n'avons pas vu non plus Bécassine, version Bruno Podalides. Plutôt tentant, mais nous avons vu bien d'autres choses. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors de quoi nous allons parler ?
Alors moi je vais vous parler d'un très joli documentaire colombien qui s'appelle Jericho. Et puis je vais faire un petit état des lieux finalement du cinéma actuel par rapport à la représentation des femmes et des minorités. Est-ce que les choses ont vraiment évolué ? Est-ce qu'elles ont changé ?
Un petit point. Et toi Manu ?
Je vais vous parler d'Hérédité, un premier film d'épouvante d'Ari Aster, de À genoux les gars d'Antoine Desrosières et de Ocean 8 de Gary Ross.
Et puis moi je vous parlerai de How to Talk to Girls at Parties de John Cameron Mitchell. Ça c'était présenté à Cannes il y a déjà un an. Et puis eh bien, on va débuter cette émission avec un film d'animation chinois, Have a Nice Day, de Liu Jian.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Have a Nice Day du chinois Liu Jian est, comme le définit son auteur, un film d'animation d'art et d'essai qui aborde des sujets sérieux. Mais pourtant, ce dessin animé a encore d'autres qualités qui tapent à l'œil, c'est son appétit déjà pour le genre et notamment le polar. On imagine alors que le titre résonne comme une franche rigolade, ce Have a Nice Day, bonne journée, est ironique, tant ce dessin animé, qui prend sa source dans la réalité de la société chinoise, convoque l'absurde, le fantastique et, il faut bien le dire, la violence. L'histoire se déroule dans un village des faubourgs d'une petite ville du sud de la Chine. Xiao Zhang change son destin en volant l'argent de son patron, un mafieux local particulièrement atroce, hein, mais pas dénué de réflexion philosophique. 1 million de yuan est contenu dans un sac. Cet argent doit servir à payer une nouvelle opération de chirurgie esthétique à sa petite amis en Corée du Sud, la première opération ayant raté. Et Xiao Zhang tient à combler sa petite amie car c'est aussi l'assurance de se marier, ce qui est très important quand même en Chine. Alors, sitôt averti du vol, le chef lance la course-poursuite. Mais s'il n'y avait que ça, tous ceux qui vont croiser la route du voleur vont être tentés de prendre part au butin et à l'histoire. Et c'est avec ce fil narratif simple que le réalisateur fait intervenir tous ces personnages. Et il y en a un petit nombre. Il y a le voleur, son patron, un tueur à gages qui n'a jamais fait que ça, finalement zigouiller son monde, un couple qui passe, un autre qui s'engueule sur la nécessité de faire une start-up avec ce million qui tombe du ciel et puis quelques autres. Alors on imagine bien l'effet que peut produire un sac rempli de yuan sur lequel figure encore Mao dans une Chine qui certes est bien éveillée mais ne distribue pas les richesses à tout le monde. Le réalisateur insiste largement d'ailleurs sur cette dimension fétichiste en nous gratifiant de gros plans sur le sac, quel que soit le personnage qui souhaite se l'attribuer. Alors dans la Chine moderne, tout le monde n'a pas sa part au gâteau, voilà en définitive ce qu'on perçoit. Le réalisateur Liu Jian place son histoire dans une petite ville du sud du pays, transformée par l'industrialisation, soulignant ainsi les changements que connaît une certaine partie de la Chine. Alors on s'en aperçoit à divers moments quand il fait discuter ses personnages, des dialogues qui ne sont pas seulement triviaux, mais qui donnent bien souvent l'occasion de porter un regard sur cette société, les aspirations de chacun et sur la vie en général.
Ne pas la leur.
你要想清楚了。Petite partition musicale trip-hop, assez agréable. Le film de Liu Jian a de quoi décontenancer au début. Déjà, il ne s'agit pas d'un film tout public. La violence qui surgit régulièrement est un premier indice. Mais il y a aussi le rythme et les couleurs. C'est un peu Jim Jarmusch qui prend des crayons. La tonalité de Have a Nice Day n'est pas vive, mais plutôt grise, verte et glauque et affiche davantage sa mélancolie que sa vitalité. Mais on finit par s'y habituer. Ce qu'il y a de très frappant aussi dans le dessin de Liu Jian, c'est son trait affirmé, son souci de représenter les choses et les objets de manière réaliste. Le filtre de de la réalité ne se situe pas dans la transposition du monde, où les voitures, les motos eh bien, sont clairement identifiables, mais dans les personnages, précisément ce qu'ils disent d'eux-mêmes et de la société dans laquelle ils évoluent, entre grands rêves, fatalité et renoncement. Alors c'est aussi avec le montage et la narration que le réalisateur, qui a découpé son film en 4 parties, nous soumet son point de vue. Il n'y a pas plus mélancolique qu'un plan continu de 1 minute sur la mer à ras de l'eau ou sur la végétation, eh bien, c'est ce qu'il fait. Mais il y a aussi eh bien, des dessins sur les villages grignotés, les banlieues industrielles sans âme, ou les coins de route où plus personne ne va. Alors c'est assez étonnant, mais c'est quelque chose qu'on voit couramment en Chine. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu l'occasion de le voir. On voit une route, il n'y a personne, elle est très grande et elle va nulle part. Voilà. Et bien ça aussi, on le voit dans ce film d'animation. Le sujet est au premier abord sérieux, mais on compare également Have a Nice Day à un Tarantino. Alors sans doute pour ce qu'il charrie de violence, d'absurde et de bavardage, mais quelle que soit la lecture que l'on fait de ce dessin animé, le polar cynique ou le film social, eh bien on se laisse porter par une œuvre singulière qui, malgré ses quelques lenteurs, mais propre au rythme qu'a voulu donner l'auteur finalement, ne dépasse pas les 1h20. Alors ce dessin animé avait été présenté au festival d'Annecy en 2017, il a aussi concouru à Berlin pour l'Ours d'Or, mais il a été programmé d'Annecy sous la pression des autorités chinoises, hein, qui voient d'un mauvais œil la présentation du pays faite par cette production indépendante. Pékin est évidemment plus soucieux de concurrencer Pixar et Disney avec des productions grand public qu'avec des films d'animation d'art et d'essai, égratignant le capitalisme sauvage chinois. Have a Nice Day de Liu Jian, c'est vraiment un film que je conseille, un film d'animation, donc sur les écrans depuis le 20 juin.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Précédé d'une réputation flatteuse, hein, Hérédité, hein, risque d'attiser autant d'adhésion que de rejet. Alors ce clivage inévitable, on va dire, entre amateurs de cinéma horrifique classique, hein, tendance B, et cinéphiles plus exigeants à la recherche d'un minimum d'expérimentation, en fait ne devrait pas cristalliser autant de crispation, même si dès les premières images, la tension qui s'installe est édifiée par une mise en scène un peu solennelle qui ne va pas plaire à tout le monde. Alors l'immersion immédiate au cœur d'une ambiance mortifère par des procédés visuels très voyants, mais d'une efficacité redoutable, fascine, mais suscite également de l'appréhension, celle d'assister à la naissance d'un jeune cinéaste ultra doué, Ari Aster, conscient de son talent énorme qui ne cherche nullement à se protéger, affichant avec aplomb ses prédispositions formelles uniques. Alors comme le titre l'indique, hein, il s'agit d'une affaire de famille. Tout débute par un deuil, celui de la mère d'Annie Graham, que personne ne semble regretter. Une vieille femme qui aurait perdu la boule et déstabilisé son petit monde environnant, créant un séisme affectif et psychologique suggéré par une caractérisation des personnages très précise. Alors Steve, le père, hein, porte à bout de bras cette fratrie au bord du gouffre. La fragilité du fils, Peter, est canalisée par sa vie sociale et son addiction aux drogues douces, contrairement à sa sœur, marginalisée par son physique atypique et son attitude pour le moins mystérieuse. Alors des enfants perdus, hein, qui semblent souffrir d'un manque d'affection, perturbés par un lourd passé de secrets. La mère, artiste borderline, soigne ses névroses en créant des maisons de poupées, retraçant le quotidien de leur existence, des œuvres glaçantes de morbidité, exorcisant un drame familial qui trouverait peut-être son origine dans le titre du film. Mais rien n'est moins sûr, d'autant qu'en dire plus gâcherait le plaisir masochiste de se plonger dans une histoire sinueuse en perpétuelle évolution, prenant des directions insoupçonnées, dérivant vers des fausses pistes constantes. En ce sens, Hérédité tourne le dos à 99% des films d'horreur contemporains qui s'appuient sur des concepts, alors on dirait parfois malins comme Get Out, ou plus souvent idiots, Action ou Vérité, récemment aboutissant à des récits prévisibles. Donc voilà, bienvenue, je dirais, quelque part dans l'enfer familial.
Il y a quelque chose que tu veux dire ?
Il y a quelque chose que toi, tu veux dire ?
On a l'impression que peut-être tu as un truc à dire.
Peter.
Du genre, qu'est-ce que je pourrais avoir envie de dire pour que tu me critiques ?
Te critiquer ? Mais je t'ai jamais critiqué.
Tu n'as pas besoin de l'exprimer, on connaît ton point de vue.
Ok, très bien, alors dis ce que tu as à dire.
Peter.
Je n'ai rien envie de dire. J'ai essayé de dire des choses.
Bah, essaye encore, si ça peut te soulager.
Mais c'est toi que ça peut soulager.
Ouais, d'accord, soulage-moi, allez, vas-y. Mais putain, dis ce que tu veux
dire. Je t'interdis de me parler sur ce ton, petite merde. Je t'interdis d'élever la voix sur moi. Je suis ta mère. Tu comprends?
C'est pas très fun, hein, quand même. Hein.
Ah, c'est pas un bon repas. Hein,
Alors, Hérédité déjoue nos attentes par des ruptures narratives, de brusques changements de perspective, évinçant toute artificialité, un dispositif anxiogène dès les premiers plans, pesant et poisseux. Les très lents travelling d'une caméra, alors toujours placée au bon endroit, auscultent à merveille cette peur palpable, hein, présente à tout instant, capable de surgir du moindre coin de l'écran. Alors, rien n'est prévisible, hein, dans ce film Cerveau, qui rappelle finalement davantage Shining que L'Exorciste, auquel il est comparé abusivement, hein, car si en filigrane il est bien question de possession, hein, réelle ou l'imaginaire, le jeune Harry Astor sait se démarquer de ses aînés par une écriture incisive nous prenant constamment en rebrousse-poil. Tout le métrage est littéralement emporté par une ambiguïté relationnelle qui finit par contaminer la texture même de l'image, de plus en plus sombre et cafardeuse. Le réel et le surnaturel se superposent dans un même plan, ce qui rend le film extrêmement déstabilisant. Alors cette fusion, qui peut mener à la confusion jusqu'à un épilogue final inconfortable, se matérialise à l'écran par une direction artistique impressionnante. Les décors, à commencer par la demeure sinistre des Graham, sont utilisés comme des espaces psychiques des personnages, la photographie spectrale donne de l'ampleur à des plans magnifiquement composés et le montage précis prend le risque de ralentir constamment un récit pourtant d'une très grande richesse sans chercher à nous faire peur par des jumpscares débiles ou des effets tape à l'œil. Alors cette rigueur de la mise en scène subjugue pour un premier long métrage quand même d'un jeune cinéaste qui a que 31 ans et il n'a qu'à son actif que quelques courts-métrages remarqués en festival. On peut y voir dans ce film d'horreur à l'ambition assez démesurée une arrogance, un volontarisme naïf d'en mettre plein la vue et ce dès l'ouverture qui aurait pu gagner peut-être à en prendre davantage son temps ou du moins à faire monter l'angoisse en crescendo partant d'un quotidien banal pour mieux le triturer ensuite. Mais Harry Astor fonce tête baissée, maintient une tension insoutenable de la première à la dernière image sans perte de régime, à condition de rentrer dans ce cinéma populaire et exigeant qui doit autant à L'Heure du Loup de Bergman qu'à Rosemary Baby de Polanski. Alors cette œuvre étonne par sa capacité à foutre réellement la trouille au détour d'un visage congestionné, d'une silhouette en arrière-plan, d'une inscription sur un mur, d'un dialogue tétanisant de méchanceté comme on a entendu dans l'extrait. Alors Hérédité est, à mon avis, le grand film d'épouvante que l'on attendait, ne dénigrant jamais le genre dans lequel il s'inscrit et qui, en plus, nous renvoie à nos propres démons, comme la folie en guise d'une possible hérédité familiale.
En tout cas, ce film est sur les écrans depuis le 13 juin. Il y a un soin particulier aussi apporté au casting.
Oui, au
parce
casting.
Qu'avec la petite fille qui a un visage un peu singulier,
elle est
solide.
Très, très étrange. Oui. Je crois que c'est une actrice de Broadway en fait, qui a quand même déjà l'habitude d'être sur les planches. Et puis, j'ai oublié aussi de parler de la musique qui est assez étonnante. C'est lié à Colin Treston, je crois, c'est un habitué du label Constellation et qui livre donc une musique avec des sons de saxophone vraiment angoissant.
Alors ça fait déjà deux films qu'on a bien appréciés. Il y en a un troisième qui est porté par un distributeur qu'on aime beaucoup, Arizona. Voilà un documentaire qui nous emmène en Colombie.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces cinq minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Dès le début de Jericho, on est happé par des plans macro, c'est-à-dire très proches et très précis, sur des visages de femmes, sur leurs mains, sur les gestes qu'elles font pour se préparer, saisir la vie. Tel est le but de ce documentaire de Catalina Mesa, la réalisatrice colombienne dont c'est le premier film, un premier film très réussi et qui a d'ailleurs fait forte impression dans la plupart des festivals où il est passé. Voilà, c'est un petit passage musical du film car la musique est très, très importante dans ce documentaire. Jericho, situé dans la région d'Antioquia en Colombie, n'est pas un village comme les autres. Il est relativement récent et malgré sa petite population d'environ 8000 habitants, il est extrêmement sensible aux arts tels que la peinture et la littérature. Et le village a même sa propre sainte, Mère Laura, qui est également la première femme canonisée en Colombie. Le documentaire Jericho aurait pu s'appeler Visage-Village, pensé comme une mosaïque. Il fait le portrait de 8 femmes à travers leur récit de vie, leurs gestes du quotidien et la découverte de leur intérieur. Entre deux scènes presque clippées, mais jamais tape à l'œil, car la musique tient un rôle donc très important dans le film, la caméra se pose et elle écoute parler ces femmes, pour la plupart âgées, entre elles. Alors ce postulat est très intéressant puisque le documentaire filme ces femmes comme des personnages de fiction. Plutôt que de faire appel à une voix off ou à une personne externe pour les faire parler, la caméra se fait oublier et les laisse dialoguer entre elles. Alors si les hommes ne sont pas très présents à l'écran, il était en revanche très souvent question d'eux, mais ils ne sont pour la plupart que de simples souvenirs. Ces femmes qui ont le plus souvent entre 75 et 80 ans et sont quand même issues d'une société plutôt patriarcale et traditionnelle, nous surprennent par leur liberté, quoiqu'elles soient quand même assez mariées à Dieu, car ce sont finalement eh bien, des femmes qui ont appris à vivre sans homme à leur côté, soit parce qu'ils sont morts, soit parce que les contraintes sociales ont empêché leur union. Il est aussi question de sujets plus graves, comme d'enlèvement d'enfants, de deuil, de violence, mais les femmes ne sont jamais montrées comme des victimes, et il ressort de ces moments de confession quelque chose d'assez poétique, qui demeure en même temps profondément ancré dans le réel. Alors les plans sont d'une beauté folle, hein, avec un soin particulier apporté aux couleurs. Jéricho est vraiment un documentaire très réjouissant et très touchant. C'est une leçon de vie. Et puis côté forme, je ne dirais pas que c'est une leçon de cinéma, mais pas loin.
En tout cas, là aussi, un peu comme le film d'animation chinois, la forme est sec, hein, parce que 1h17, c'est exactement comme le film d'animation. Voilà, ça va achever la partie de l'émission consacrée au film qu'on a plutôt aimé, qu'on a même adoré. Et là, on va entamer la partie...
L'émission en deux parties, bonne, en fait.
Avec une injonction, à genoux, les gars, c'était un film en compétition pour Un certain regard.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Alors, Antoine Desrosières hein, poursuit le travail entamé sur Aramiste avec Inas Chanti et Souad Arsane, les deux actrices également co-scénaristes, présentées donc à Cannes hein, dans la sélection Un certain regard. À Genoux les garçons n'est pas proprement parlé une extension du moyen-métrage que je viens de citer, mais plutôt une variation en reprenant les mêmes personnages, en l'occurrence les deux jeunes filles maghrébines. Rim et Yasmina s'interrogent sur la sexualité, leur première rencontre avec deux gars, Salim et Majid. Alors, le projet initial hein, semble tout entier au service des dialogues, scandé comme une sorte, je dirais, de slam à quatre voix dans un flot de paroles ininterrompues. Alors cette approche rythmique séduit pendant quelques minutes, hein, mais rapidement la fraîcheur des échanges laisse place à l'exaspération, bah, puis au sentiment un peu désagréable de s'être fait rouler dans la farine, hein, notamment lorsqu'intervient, bah, je dirais, un peu la scène clé du film.
Vas-y, dis-moi un bon argument pour que je te suive.
Tout le monde le fait, tous les couples le font, tu vois, c'est un truc de fou. Bah non. Sinon on le fait pas, c'est grave, on va être ridicule.
Non, c'est pas un bon argument, ça.
Si le ciel vous tombe dessus...
Mais c'est un antidépressif.
C'était dépressif.
Non, mais c'est bon, vas-y, c'est bon, là.
Majid qui s'énerve parce que je l'ai pas sucé. Hein.
À genoux les gars, hein, s'avère une comédie alors soi-disant décomplexée, abordant un thème délicat, la sexualité chez les adolescents. Alors, la crudité des mots et des situations intéresse dans un premier temps, mais rapidement bah, le ton dérape. Hein, l'homophobie revendiquée des deux jeunes crétins de cité ne débouche sur rien de drôle ou stimulant. On assiste juste médusé à une désolante succession de clichés sous l'œil complice de leur petite copine qui pense juste qu'ils exagèrent. Alors soyons lucides, hein, Desrosières filme sans doute une réalité, mais pourquoi une telle complaisance envers des personnages aussi creux et tête à claque ? Desrosières installe une connivence douteuse avec un spectateur qui ne demandait pas d'assister à ce spectacle voyeur et pudibond en même temps. À genoux les gars laisse une sensation bah, désagréable hein, à force de jouer avec le feu, d'agiter la carte du politiquement incorrect. Le film se fait complice d'une situation embarrassante. Hein. Un acte sexuel forcé, filmé à l'insu de la jeune victime, ne serait pas si grave à condition de se venger de la même manière. Alors il y a en plus vengeance un peu explicite dans le titre. Hein. L'absence de point de vue du cinéaste qui se vaut dans une provocation gratuite renforce vraiment l'inconsistance de cette petite comédie, alors pour qui la mise en scène se réduit à une succession de chants contre chants, du début à la fin. Et puis bon, il faut le dire, c'est assez mal joué en plus. Mmh. On l'entend un peu. Hein. C'est vraiment, là, il y a un problème de direction d'acteur. Alors une purge qui prend un peu ses vessies pour des lanternes. Hein. Si on parle beaucoup de cul, le désir est le grand absent, et l'émotion aussi, hein, les rapports sexuels étant perçus que sur un plan strictement mécanique, et donc bah, sans conséquences réelles. Hein. Alors je sais pas, peut-être qu'il a voulu faire un rap and revenge un peu léger, ludique, mais je suis pas sûr que ce genre puisse... Non mais c'est vrai, c'est ça le problème, c'est qu'il a voulu apporter une légèreté à, je dirais, un postulat de base qui ne demande pas ce genre de traitement, en fait.
Alors, quelqu'un qui traite de la sexualité plutôt bien, c'est John Cameron Mitchell, dont on va parler maintenant.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, John Cameron Mitchell avait brillé au plan international en prenant la veine Sundance, assumant un cinéma en marge, hein, la preuve avec Short Bus, en 2006, où les personnages cherchent le plaisir, un film fantasque, cru parfois, drôle surtout, et précieux pour son approche cinématographique. Alors, il ne s'agit pas seulement du sujet, le sexe, mais comment il en parle. L'an dernier à Cannes était présenté How to Talk to Girls at Parties, soit comment parler aux filles pendant les soirées, une séance hors compétition en présence de Nicole Kidman, qui interprète une prêtresse punk, l'Australienne avait produit le précédent film de réalisateur américain dans lequel elle jouait. Et lors de cette projection, qui je l'avoue est lointaine, hein, la salle avait été hilar par moments devant ce qu'il convient d'appeler un film singulier, encore une fois. Alors voilà pourquoi How to Talk to Girls at Parties aurait donc mis du temps à sortir sur les écrans. Il s'agit de ces films qui supposent que le spectateur lâche prise et se laisse aller dans un univers qui n'est sûrement pas le sien et dont il a peine peut-être à capter les codes. How to Talk to Girls at Parties est inspiré d'une nouvelle du britannique Neil Gaiman. Nous sommes en 1977, au moment où le mouvement punk émerge à Londres. Les Sex Pistols ont déjà entonné le God Save the Queen à leur façon et toute une jeunesse est en révolte. Alors on suit trois jeunes londoniens qui vont de concert en bar en fumée, en boîte de nuit, n'hésitant pas à prendre quelques produits au passage, et qui vont un soir décider d'aller dans un after particulier qui se déroule dans une étrange maison dans laquelle des extraterrestres ont débarqué. Alors on a l'impression d'atterrir dans une fête New Age avec vêtements à latex et cheveux lissés. Rien n'apparaît donc très banal. On s'intéresse surtout à un personnage, N, donc un lycéen, parmi les jeunes, mais avec un look clairement étudiant, qui va rencontrer Zandra. Alors avec un pareil nom, il s'agit bien sûr d'une extraterrestre. Elle ne demande qu'une chose, Zandra, connaître le punk. Mais pour cela, elle doit quitter sa communauté qui s'apparente à une secte. Et N en est persuadée, si elle est si naïve, c'est qu'elle doit être américaine, sûrement californienne. Mais il va finalement insuffler à cette jeune fille le petit sentiment de révolte et d'anarchie propre à l'époque. Alors évidemment, comme il y a des punks dans le film, eh bien, il y a de la musique punk. Alors ça, c'est la partie agitée, mais il y a aussi la partie plus tendre. Ça, c'est le côté peut-être un peu plus New Age avec les Velvets. Alors l'intrigue de How to Talk to Girls at Parties n'a rien de remarquable. Hein. Il s'agit pour le réalisateur de nous emmener dans une comédie romantique qui lie un jeune punk et une alien avec les premiers émois des amours adolescents. Or pourquoi pas, mais bien évidemment, rien n'est conventionnel. L'univers que nous décrit John Cameron Mitchell transpire à l'écran. Le projet est bien de nous emmener dans une époque qu'on a quittée, donc, hein, qui butait contre la réalité et le conservatisme de la société, comme la monarchie britannique. Et, guidé par le mouvement punk qu'il a connu, la contre-culture, eh bien, le réalisateur nous plonge dans cet univers foutraque où les trois garçons, faute de vivre une étonnante nuit sexuelle, comme ils le pensent hein, au premier abord, vont éprouver leurs convictions et leurs sentiments et prendre des drogues. Alors, bourré de références, doté d'une bande-son énergique, là j'ai passé un extrait, mais la musique est recomposée et elle est vraiment très très vive. How to Talk to Girls at Parties se laisse déborder par une abondance de fantaisie, de folie, malgré tout de répétition. Il n'en demeure pas pour autant ennuyeux. L'énergie qui s'y déploie, les personnages qu'on y perçoit nous permettent de tenir sur la durée. La prestation de Nicole Kidman vaut le détour, hein, elle est absolument méconnaissable, manager de groupe punk avec hargne, elle engage la baston avec la partie la plus dure des extraterrestres. Et à l'inverse, eh bien, le personnage de Zandra, interprété par Elle Fanning, qu'on a vu dans Donny on Demon, hein, déjà qui était qui crevait l'écran, eh bien, elle est ici tout en candeur et en finesse et elle permet d'équilibrer cette fable délirante ce film de John Cameron Mitchell en salle depuis le 20 juin.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Voilà, le Festival de Cannes, très politisé cette année, est terminé. Et Harvey Weinstein a été jugé, bon, même s'il a déjà été libéré sous caution. Hein. Alors, est-ce que le cinéma est vraiment en train de changer, en train de s'ouvrir à davantage de parité, davantage de représentation des minorités ? Ou est-ce que l'industrie va rester sur ses vieux acquis ? Alors, côté blockbuster, déjà, on avait senti une certaine évolution hein, dans les films de super-héros. L'heure n'était plus aux héros invincibles et sans faille, mais aux anti-héros, ceux qui souffrent, ceux qui sont imparfaits, ceux qui sont humains. Enfin bon, le héros de base restait tout de même extrêmement masculin et extrêmement blanc. Et depuis 2017, ça y est, les studios ont compris que eh bien, les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale et que pas mal de gens quand même sont noirs dans le monde et que peut-être eh bien, tout ce petit monde a envie de pouvoir s'identifier à des personnages au cinéma et qu'ils seraient même éventuellement prêts à payer leur place pour voir des films plus ouverts niveau représentation. Alors résultat, Wonder Woman met en scène une héroïne qui se bastonne contre des mecs et qui en plus sait parler toutes les langues du monde, bref une nana vraiment bonne à marier. Tomb Raider propose un reboot sans Angelina Jolie dans le rôle de Lara Croft, un peu trop iconique pour que l'on puisse s'identifier, car soyons honnêtes, Courir avec un 95F, c'est quand même pas crédible. Un reboot donc avec une Alicia Vikander beaucoup plus normale, donc plus proche du public féminin et moins sexualisée à destination du public masculin. Résultat, les deux films cartonnent au box-office et une suite est en préparation. Et que dire bien évidemment de Black Panther, le plus gros score pour Marvel et une grande avancée sociologique, puisque pour la première fois dans un film de super-héros, la majorité des personnages sont noirs. Mention spéciale aux Gardiens de la Galaxie, puisque le film a pris une longueur d'avance dans l'antiracisme en mettant en scène des super-héros verts, un arbre qui parle, voire même des animaux bagarreurs, car oui, les animaux et les plantes ont une âme et méritent aussi d'être représentés au cinéma. Alors côté film français, la diversité des représentations demeure relative. Dans les films grand public qui ont souvent un profil populaire mais surtout populiste, les comédiens noirs ou d'origine maghrébine continuent de se voir offrir des rôles uniquement définis par leur couleur de peau, c'est-à-dire dealer pour les hommes, prostituée pour les femmes ou des rôles de sans-papiers dans le meilleur des cas. En revanche, et heureusement, si on va voir du côté du cinéma d'auteur, eh bien les profils des comédiens sont beaucoup plus variés sans que leur couleur de peau définisse leur personnage. J'ai souvent parlé ici de l'humour oppressif. L'humour oppressif qui consiste à se moquer d'une catégorie de personnes considérées comme dominées par la société, comme les handicapés, les homos. Concrètement, on parle d'humour oppressif lorsque l'on rit d'une catégorie de gens à leurs dépens et non pas avec eux. Exemple, à peu près tous les films de Christian Clavier. Bon, de ce côté-ci, on ne peut pas dire que les choses avancent à grands pas, mais on peut espérer que davantage de réalisateurs, eux-mêmes issus de minorités, émergent dans le milieu de la comédie et donc ils se refusent à utiliser ce genre d'humour dans les prochaines dizaines d'années. Côté comédienne, eh bien, même si l'âge moyen de la starlette n'est plus de 17 ans comme auparavant, les personnages de femmes de 40 ans et plus ne sont quand même pas légion au cinéma et surtout dans le cinéma hollywoodien. Mais si à Hollywood, les actrices déplorent le manque de rôles pour les femmes de plus de 50 ans, surtout en France, les Juliette Binoche, Agnès Jaoui et autres Isabelle Huppert continuent de tourner autant. La raison se trouve peut-être dans le fait qu'un réalisateur sur trois en France soit une femme, nombre qui devrait drastiquement augmenter dans les prochaines années, puisqu'actuellement à la Fémis par exemple, plus de la moitié des inscrits sont des filles. Alors si la notion des quotas obligatoires est peut-être critiquable, eh bien force est de constater que lorsque des femmes sont aux manettes d'un film, les personnages féminins ne sont pas écrits et représentés de la même façon. Par exemple, si une femme réalise un film, eh bien les couples dans le film n'auront pratiquement pas d'écart d'âge. Inversement, si un homme réalise un film, il aura tendance à donner à ses personnages masculins des compagnes beaucoup plus jeunes. Et si le réalisateur joue dans son propre film, l'écart d'âge entre lui et sa partenaire sera encore plus important.
Exemple, vraiment, Woody Allen.
C'est prouvé. Alors, je pensais même beaucoup plus proche de nous, hein, c'est-à-dire, par exemple, le dernier film de Daniel Auteuil, Amoureux de ma femme, dans lequel il sort avec Sandrine Kiberlain, 20 ans moins que lui, tandis que son ami, interprété par Gérard Depardieu, sort avec une femme de 30 ans. Bon, en même temps, c'est complètement crédible. Je veux dire, quelle jeune femme ne tomberait pas amoureuse de leur physique d'Apollon? C'est complètement normal. À ce stade-là, on oublie l'écart d'âge. De même,
mais l'amour n'est pas que le physique, Marine.
Tout à fait. L'argent aussi est pour beaucoup. Enfin, on le sait, quoi. Et de même, dans Santa et compagnie, Alain Chabat, qui réalise et joue dans le film, s'est offert comme épouse Audrey Tautou, 25 ans de moins que lui, mais bon, qui a quand même 41 ans, autant dire une véritable momie. Alors, est-ce qu'il demeure dans l'industrie du cinéma de nombreuses visions réactionnaires? Oui. En revanche, une chose est sûre, le cinéma a évolué de façon tellement radicale et importante ces 5 dernières années que cela ne peut que laisser présager de changements encore plus grands dans un futur proche.
Eh bien, merci Marine pour ce petit point. On va faire très vite sur un petit flop, Ocean 8.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Dans 3 semaines et demie, le Met organise son grand bal annuel. Et nous allons le braquer. Pas le bal lui-même. Le coût de Daphne Kluger.
Estimé à plus de 100
millions de dollars.
Non, 150 millions de dollars.
Une vengeance d'une pierre de coups.
Ben, un film de femme, hein, je vais être raccord avec Marine du coup. Hein. Alors la question primordiale, la seule d'ailleurs que pose Ocean 8 hein, en marge de cette histoire de braquage, hein, trouve finalement sa réponse dans le résultat calamiteux du produit en question. Alors pourquoi ces bimbos de la cambriole ne sont-elles que 8 ? Là où en toute logique, si je compte bien, elles devraient être 14.
Bah oui.
Eh ben oui, rappelons que les précédents s'appelaient Ocean 11, 12 et 13. Alors deux hypothèses paraissent plausibles, la première est purement pragmatique. La production aurait eu des difficultés à trouver 8 volontaires hein, pour s'associer à un projet moisi avant même le premier jour de tournage. Et la deuxième, plus dans l'air du temps, serait de penser que 8 femmes valent largement 14 hommes. à moins qu'il ne s'agisse d'un hommage à la pièce Huit femmes de Robert Thomas, immortel auteur de Mon curé chez les nudistes, pièce adaptée par François Ozon.
Ou alors, si je peux me permettre, ils pensent déjà à une trilogie. Donc ils se disent 8, 9 et 10.
Oui, possible, mais à mon avis, vu le four que le film va faire, je pense qu'il ne faut pas trop. Alors, ça n'a aucun intérêt. Hein. C'est lisse, c'est ennuyeux, ça n'a strictement aucun intérêt. Le seul intérêt qu'on peut voir, c'est de regarder le visage de Sandra Bullock, qui est étonnamment lisse, on dirait un personnage de Pixar, d'un dessin animé, tellement elle n'a absolument aucune ride et c'est assez bluffant. Flippant même, je dirais.
Ben en tout cas, moi je dis que si tu tabasses Ocean's 8, c'est parce que t'es un mâle blanc. C'est ce que dit Kate Blanchett.
C'est pour ça. Voilà. Mais pourtant, le seul personnage qui m'intéressait, c'était la petite asiatique geek et puis Rihanna.
Ouais, mais c'est typique d'un mâle blanc, ça.
Bon, ben alors je dis rien. Voilà.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va pas contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors, il y a quelques émissions, on parlait de la ressortie de 2001 Odyssée de l'espace, mais il y a quelque chose qui t'intéresse, Manu?
La ressortie en copie neuve, donc, de 6 films de Dario Argento, qui vont de son premier film, L'oiseau plumage de cristal, jusqu'à Opéra.
Et on en parlera la semaine prochaine.
Et moi, je vous parlerai bien des films que j'ai vus à Cannes et qui sortiront cet été.
À bientôt.